comment est-ce qu'on s'y prend ? On s'y prend en construisant une éthique qui peut être une éthique, qui doit être une éthique radicalement post-chrétienne. Qu'est-ce qu'une éthique chrétienne ? C'est une éthique qui nous dit un être égale un être. Et ça, c'est assez révolutionnaire dans le christianisme. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, qu'on puisse dire un homme, une femme, un blanc, quelqu'un qui n'est pas blanc, un juif, un chrétien, etc. C'est exactement la même chose. Au regard de Dieu, les hommes sont tous égaux. C'est un principe qui, a priori, est intéressant, même si c'est dans le texte, alors que dans la réalité, effectivement, il y a toujours des esclaves, il y a toujours des maîtres, il y a toujours des dominants, il y a toujours des femmes qu'on exploite, il y a toujours cette réalité dans le christianisme. Bien au moins, d'un point de vue de l'ontologie, c'est-à-dire du discours fondateur chez les chrétiens, cette idée qu'il y a une égalité totale entre les êtres et qu'il faut, de ce fait, aimer son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. C'est la fondation de l'éthique chrétienne. Alors évidemment, on ne va pas vous inviter à aimer ceux que vous aimez déjà. Il n'y a pas un devoir à aimer les gens qu'on aime déjà. C'est-à-dire que le problème de l'éthique, ce n'est pas l'amour des gens qu'on aime, c'est l'amour des gens qu'on n'aime pas. C'est plutôt là que le problème de l'éthique se pose. Et le christianisme nous dit, vous connaissez l'histoire, si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. On vous dit, vous avez essayé déjà, hein, impraticable. Si on vous dit, il faut aimer son prochain, surtout si ton prochain c'est un salaud. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, vous êtes une victime, vous avez un bourreau. L'éthique chrétienne vous dit, il faut aimer ton bourreau. Il faut donc être dans une logique de non-violence, il faut être dans une logique de pardon des péchés, il faut être dans une logique d'amour du prochain, et il faut considérer que autrui est un moyen pour mon propre salut. Le christianisme dit qu'il faut aimer autrui, non pas parce qu'il est autrui, mais parce que dans l'amour d'autrui, tu payes ton paradis, tu obtiens ton paradis, tu gagnes ta vie éternelle. Ça, c'est une éthique totalement impraticable. Il n'est pas, en plus de ça, sain, me semble-t-il, de demander à la victime qu'elle aime son bourreau. Qu'elle aime son bourreau. C'est quand même là qu'il y a une espèce de pierre d'achoppement avec le christianisme. Et il me semble que cette éthique est impraticable sur ce terrain-là, comme elle est impraticable sur le terrain sexuel, par exemple, quand elle nous dit que le mieux, c'est rien du tout, chasteté. Qu'à défaut de chasteté, on peut toujours, c'est un moindre mal, se marier. Essayez, vous verrez. Mais que même dans le mariage, il faut continuer avec la chasteté et que, de fait, l'idéal, quand on a une femme à la maison, sous la main, j'allais dire, ou un homme sous la main, eh bien l'idéal, c'est de ne pas trop s'en servir ou juste ce qu'il faut pour faire des enfants. C'est la morale chrétienne, elle est dominante. Et on vous dit, voilà, amour du prochain, pardon des péchés et haine du corps des femmes. Je ne suis pas chrétien. Ça n'aura fait mystère pour personne, mais je pense que cette éthique est impraticable, qu'elle nous invite à l'impossible, et qu'on ne peut pas aimer ses ennemis, et qu'on ne peut pas non plus se passer du bonheur de la peau de l'autre qu'on aime. Ça me paraît sidérant d'inviter à cette espèce d'autodestruction que le christianisme présente comme une espèce de proposition essentielle pour la planète tout entière. C'est-à-dire qu'il faut universaliser la maxime chrétienne, c'est-à-dire aller dans ce sens-là, s'aimer d'amour les uns les autres, surtout aimer ses ennemis, et puis en même temps être dans cette détestation de la chair. Moi, je propose une éthique qui soit aristocratique. Et quand je dis aristocratique, il suppose ce terme-là, l'étymologie, c'est-à-dire le choix des meilleurs. Et le meilleur, c'est qui ? C'est celui qui, dans le contrat hédoniste dont je parlais tout à l'heure, évacuera les pulsions sadiques, évacuera les pulsions masochistes, évacuera bien sûr les pulsions sadomasochistes, et avec lequel nous pouvons passer un contrat. La base de l'éthique hédoniste pour aujourd'hui, c'est le contrat. C'est une éthique contractuelle. Elle est élitiste et elle est aristocratique, cette morale, parce que nous sommes tous au centre du monde. Chacun, ce soir, ici, est au centre de son propre dispositif. De fait, on sait très bien qu'on ne peut pas se mettre à l'écart de soi-même et que la construction du monde se fait à partir de soi. Et vous avez raison, et chacun a raison, de penser effectivement qu'il est l'axe autour duquel tourne le monde. Avec la possibilité d'une éthique dynamique. Une éthique dynamique, c'est quoi ? C'est le contraire de l'éthique statique qui vous dit qu'il faut aimer l'autre parce qu'il est l'autre, comme le dit le christianisme. Une éthique statique, ça suppose qu'il faut aimer l'autre s'il est aimable. Il faut détester l'autre s'il est détestable. C'est-à-dire, il faut, dans la logique du contrat, et j'y reviens, jouis et fais jouir, sans faire de mal, ni à toi, ni à personne, voilà toute morale. Dans la logique du contrat, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est partant pour un contrat hédoniste, eh bien, à ce moment-là, il faut réaliser ce contrat hédoniste. Et le contrat est synalagmatique, comme disent les juristes, c'est-à-dire que si l'un des deux rompt le contrat, il n'y a plus de contrat. Il faut être deux pour s'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un malgré lui. Donc, l'éthique à laquelle j'aspire, Elle est dynamique parce que, avec le jeu d'élection et le jeu d'éviction, c'est-à-dire l'élection vous permet de rapprocher des êtres, l'éviction vous permet d'évincer des êtres, eh bien vous savez qu'il y a des cercles éthiques, qu'il n'y a pas une obligation d'aimer autrui parce qu'il est autrui, mais que vous avez des logiques affectueuses qui ne doivent être générées que par l'affection qu'on vous aura donnée à vous aussi. C'est-à-dire que vous ne donnez votre tendresse que si on vous donne de la tendresse, de l'amour que si on vous donne de l'amour, de la gentillesse, de la douceur, de la proximité, etc., que si on vous donne douceur, gentillesse, proximité, etc. Ce qui veut dire que c'est une éthique de grande tension, l'éthique hédoniste. Elle suppose que tout se joue toujours, tout le temps, à nouveau. Il n'y a pas une espèce de « celui-ci, c'est mon ami pour la vie » et « celui-là, c'est mon ennemi pour la vie ». Tout est possible. Il n'y a pas d'amitié, ça n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amitié. Il n'y a pas d'amour, ça n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Et avec les preuves que vous donnez, alors vous pouvez générer chez autrui une jubilation. C'est le problème de la philosophie hédoniste. Une jubilation qui va générer chez lui une espèce de placement de votre être dans son dispositif, qui est un dispositif de cercle éthique. Vous le savez bien qu'autour de vous, il y a deux ou trois personnes qui sont des personnes très chères, des alter-égaux, des autres vous-même, des êtres à qui vous pouvez téléphoner à 3h du matin en disant que vous avez un cadavre au fond du jardin, et ils vont pas vous dire « qu'est-ce que tu as encore fait ?» Et ils vont arriver en vous disant « l'appel est où ?» et ils vont vous aider à faire le trou dans le jardin. Les amis, quoi, les gens qui vous jugent pas, les gens qui suivent avec toi, « t'as encore fait une bêtise, t'en as déjà tué un la semaine dernière. » Ça, c'est une logique d'élection. Et vous savez que si vous donnez des preuves d'amitié, alors vous construisez de l'amitié. Si vous donnez des preuves d'amour, alors vous construisez de l'amour. Et que l'amour n'est jamais que ce qu'on aura construit. C'est pas du donner, c'est du construit, l'amour. Les sentiments, les affections et ce genre de choses. Donc, non pas une éthique de l'amour du prochain, mais une éthique élective de celui qui, dans un contrat hédoniste, aura contribué à notre propre jubilation, en sachant que nous aussi, on a contribué en retour, on a contribué à la jubilation d'autrui et qu'il ne faut que ça, passer des contrats. Vous dites ce qu'est votre désir, donc sachez ce qu'est votre désir, bien sûr. Vous dites ce qu'est votre désir, et quand vous avez manifesté votre désir, l'autre fait de votre désir ce qu'il entend en faire. Et ça peut être pour un jour, ça peut être pour toujours. Et quand je dis ça peut être pour un jour, ça peut être de la douceur, de la tendresse, ça peut être de l'amitié, de l'affection, ça peut être de la sexualité, ça peut être de l'érotisme, ça peut être tout ça. Ce sont des relations qui se construisent, qui se fabriquent. C'est-à-dire que l'éthique hédoniste est une éthique de chaque instant. C'est une éthique de la communication. C'est-à-dire qu'il y a de fait la communication verbale, mais ça n'est pas forcément la communication avec laquelle on est le plus à l'aise. Et il y a des gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas dire leurs émotions. Et tout est fait dans notre civilisation chrétienne, justement, pour qu'on ne sache pas dire, pour qu'on ait peur de dire, pour qu'on soit inhibé et qu'on soit incapable de faire de son corps un partenaire. On nous a éduqués à ça, c'est-à-dire à faire de notre corps non pas un partenaire, mais une espèce de chose dont il faut se défier toujours et tout le temps. Donc c'est pas facile d'écouter son corps, d'écouter ce qu'il nous dit, de savoir qui il est et de faire la paix avec lui, et puis en même temps de faire la paix avec les autres corps dans des logiques qui sont des logiques contractuelles. Passez des contrats qui seront des contrats hédonistes, faites des propositions hédonistes, et vous verrez que si vous donnez de l'affection, de l'amour, de la douceur, de la tendresse, etc., assez probablement, si vous n'avez pas affaire à des délinquants relationnels, vous aurez en retour de la douceur aussi, de la tendresse, etc. De fait, quand vous avez identifié les délinquants relationnels, eh bien, cette fois-ci, non plus élection, mais éviction. Virez-les. On ne peut pas faire grand-chose avec des gens dont la jouissance est votre souffrance. Sauf si vous êtes sadomasochiste. Hein. Si vous dites, vous me passez une petite annonce sur Internet en disant que vous cherchez quelqu'un qui vous donne des coups, et que quelqu'un vous dit « Ah, mais moi, j'adore donner des coups », eh bien, vous allez faire un couple extraordinaire. Mais c'est contractuel. Donc, finalement, le couple sadomasochiste, ça existe, et si c'est désiré, voulu, contractuel, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on peut très bien fabriquer une belle aventure. Si en revanche, vous n'avez pas désiré les coups qu'on vous donne, de fait, on n'est pas dans une logique contractuelle, donc on n'est pas non plus dans une logique hédoniste. Tirez-vous, là encore, l'éviction, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, c'est toujours dynamique, l'éthique éthique, l'éthique esthétique et l'éthique hédoniste. Hein. C'est une éthique esthétique, c'est-à-dire il y a une volonté de fabriquer quelque chose qui relève de l'aesthésie, c'est-à-dire étymologiquement de ce qui vous permettra des sensations et des émotions. L'éthique, c'est une affaire de corps, c'est une affaire de communication non verbale. Verbale, bien sûr, c'est ce qu'il y a encore de plus simple et de plus rapide. Et quand on sait que les mots peuvent signifier ce qu'ils doivent signifier, quand on a remonétarisé le langage, parce qu'il est quand même très démonétisé ces temps-ci, mais quand on a aussi fait confiance à des logiques corporelles. Il faut savoir décoder le corps de l'autre. Que nous dit le corps de l'autre ? que nous dit la voix de l'autre, que nous dit l'inflexion, que nous dit le tempérament, le caractère d'une voix. Toutes ces choses-là sont des informations. Et alors il ne faut pas se projeter non plus et prendre ses désirs pour la réalité, mais se mettre au service du corps de l'autre en écoutant ce que le corps de l'autre nous dit pour voir ce qu'on est susceptible de fabriquer dans une logique contractuelle avec cet autre corps. C'est une éthique exigeante. Elle est exigeante parce que c'est toujours, c'est tout le temps. Donc il n'y a pas l'espèce d'éthique qui serait une morale dans l'absolu, il y a de l'éthique partout. L'éthique est partout. C'est-à-dire que dans la porte qu'on tient ou qu'on ne tient pas, dans le sourire qu'on a ou qu'on n'a pas, dans le regard qu'on a, dans l'intention qu'on a, dans la façon qu'on aura de demander à un chauffeur de taxi si on peut téléphoner, simplement par humanité, en considérant que ce n'est pas une espèce de mécanique dans une autre mécanique. Enfin, l'éthique, c'est ça. C'est une pragmatique. C'est toujours une occasion de donner à l'autre, a priori, par gentillesse, je trouve que c'est la première des vertus, de donner à l'autre, a priori, par gentillesse, une espèce de bonne volonté, une espèce de preuve de la bonne volonté, qui nous permettra d'installer la relation sur le terrain hédoniste. Donc, je souhaiterais du plaisir avec vous. En voulez-vous? Si oui, alors construisons ce plaisir. Il y a cette dynamique permanente qui fait qu'on peut fabriquer une éthique. On peut fabriquer aussi, sur le même principe, une érotique. On sait bien qu'il y a, alors l'éthique, l'historiographie dont je vous ai parlé, c'est la série de mes ouvrages qui s'appelle « Contre-histoire de la philosophie », l'université populaire dont je vous ai parlé, c'est la communauté philosophique, un ouvrage que j'ai consacré à ce sujet-là. La définition de l'hédonisme, c'est l'art de jouir, un ouvrage qui a été consacré un peu aussi à ce sujet-là. Et là, je passe à la question érotique qui renvoie à un ouvrage qui s'appelle « Théorie du corps amoureux » et qui tâche de montrer comment, sur la logique que je signalais tout à l'heure, qui est une logique éthique, on peut se trouver sur le terrain érotique, sachant évidemment que l'éthique est érotique et vice-versa. Le christianisme est une civilisation qui n'a jamais généré d'érotique, de fait. C'est-à-dire que si vous allez en Chine, si vous allez en Inde, si vous allez au Japon, il y a des érotiques. Il y a des temples en Inde qui vous montrent ce que sont les positions sexuelles. Pourquoi le Kama Sutra ? Le Kama Sutra, c'est une invitation à se soucier du plaisir des femmes, à être soucieux du plaisir des femmes, à considérer que le plaisir des femmes est constitutif du plaisir des hommes, en expliquant qu'un corps de femme n'est pas un corps d'homme. C'est une évidence, mais si peu dite, si peu soulignée régulièrement. Et dans des logiques de yin et de yang, de masculin et de féminin, où on considère que le masculin n'est grand que s'il se remplit du féminin, et vice-versa. Vous savez, c'est ce signe du Tao, où vous avez une espèce de virgule blanche dans une virgule noire, et un point noir dans le blanc, et un point blanc dans le noir. Cette espèce de jeu qui suppose qu'il y a une érotique taoïste, et voyez Van Gulik, par exemple, et les textes sur la vie sexuelle en Chine ancienne, et vous verrez que, de fait, quand il s'agit de demander, soit dans les logiques bouddhistes, hindouistes ou taoïstes, de demander à la sexualité qu'elle soit l'occasion de recharger vos énergies positives, vos énergies masculines si vous êtes femme, féminines si vous êtes homme, pour que vous parveniez à une espèce d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des érotiques orientales, il n'y a jamais eu d'érotique occidentale, pour une raison bien simple, c'est que le christianisme, je vous le disais tout à l'heure, a considéré que le désir était mauvais, que la souffrance était une bonne chose, que le corps était détestable, et tout ça à partir de saint Paul, névrosé de première classe, qui lui, ben, lisez-le, vous verrez, quand il raconte sa conversion sur le chemin de Damas, c'est une conversion hystérique. Regardez un manuel de psychiatrie, et vous verrez que ce que connaît Paul, une cécité, le fait qu'il tombe de sa propre hauteur, qu'il est dans un état de prostration totale, puis qu'il réapparaît un petit peu plus tard, etc. Ce sont les je parle sous le contrôle des psychiatres qui pourraient être dans la salle, mais ce sont les symptômes cliniques des pathologies mentales, Paul de Tarse, saint Paul, le 13e apôtre. Et saint Paul devient le personnage qui est le philosophe officiel du christianisme officiel de Constantin. C'est-à-dire que la névrose de saint Paul est devenue la névrose d'une civilisation tout entière, la nôtre, notre civilisation, qui nous dit « les femmes ne sont acceptables que quand elles sont mères ou épouses ». Et l'érotique classique, c'est ça. Pas de corps des femmes, ou alors pour l'hygiène, et les femmes ne sont défendables que quand elles sont mariées et que quand elles font des enfants. Ça rappelle aussi des positions qui sont aujourd'hui très en pointe dans les logiques extrémistes musulmanes. Hein. C'est-à-dire l'idée que la femme n'existe que si elle fait l'économie de sa féminité et si, en revanche, elle met en avant sa capacité à être la femme d'eux, d'un homme, et la mère d'eux, d'enfants qu'elle aura fait avec son homme, ses hommes. Donc il y a cette érotique, elle est chrétienne, détestation du corps, détestation de la chair, misogynie, etc. Détestation du féminin dans la femme, ce qu'on vous dit qu'en fait une femme, eh bien, elle ne doit s'occuper que de la cuisine du mari, c'est-à-dire le retour de l'homme au foyer, et puis en même temps s'occuper des enfants qui vont permettre l'héritage et la transmission du nom. Eh bien une érotique hédoniste est une érotique qui considère que la vérité des femmes est dans leur féminité, elle n'est pas dans leur maternité, elle n'est pas non plus dans leur statut ou dans leur rôle d'épouse. On peut être épouse, on peut faire des enfants, bien sûr, mais une possibilité n'est pas une obligation. Et on doit pouvoir, dans des logiques hédonistes, être dans une perspective contractualiste. Le contrat dont je parlais tout à l'heure, le contrat éthique, ça peut être aussi un contrat érotique. Ça peut être un contrat, et ça doit même être un contrat érotique. Et je suis très disciple de la Boétie qui, dans le discours de la servitude volontaire, dit « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre ». Et quand la Boétie dit ça, eh bien, on peut se dire, mais sur le même terrain, le terrain de l'érotique, si on n'a pas envie d'être effectivement dans la servitude, eh bien, on échappe à la servitude. Donc il y a des constructions possibles d'une érotique qui ne supposerait pas la maternité, la fidélité, la monogamie, le partage du même toit, mais qui supposerait des contrats nomades et des logiques qui permettraient à chacun de trouver son compte, pourvu que le contrat ait été passé avec des individus consentants. Donc en ce sens, ne promettez rien que ce que vous pouvez tenir. Je pense que j'en parle avec des amis qui se marient de temps en temps. Je leur dis, tu sais que c'est pour la vie. Ils me disent, mais non, les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Ils me disent, mais non, on ne dit plus ça aujourd'hui. Je dis, tu rigoles, j'étais dans l'église quand tu l'as dit, j'étais à la mairie quand tu l'as dit, et j'étais témoin. Donc, quand on est témoin, qu'on a sa famille à témoin, qu'on prend un témoin Dieu quand on fait ça à l'église, qu'on prend un témoin le maire, la République, et qu'on se dit, ouais, bon, enfin, bon, fidélité, il faut savoir ce que je dis. Non, non, non. Enfin, donc, ne promettez pas ce que vous ne savez pas tenir. Et on est infidèle simplement quand on a promis la fidélité. Ne promettez pas la fidélité, et après ça, l'infidélité, ça devient tout à fait autre chose. Donc, c'est le jugement de valeur de ceux qui considèrent qu'il y a de l'infidélité à être dans les séries de Fourier. C'est-à-dire, Fourier a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le nouvel ordre amoureux », où il dit très précisément « Les femmes sont les grandes victimes de la civilisation », ce qu'il appelle la civilisation, lui, sous-entendu chrétienne. Eh bien, il faut en finir avec cette grande catastrophe pour passer au règne d'harmonie. C'est ce qu'il appelle, lui, de ses voeux. Il me semble que l'harmonie du phalanstère de Fourier n'est pas souhaitable, parce qu'elle est assez lyrique, dans la mesure où lui pense que l'humanité, un jour, sera tout entière fabriquée sur le principe du phalanstère. Mais fabriquez vos micro-communautés là où vous êtes. Fabriquez vos jardins épicuriens là où vous êtes. Fabriquez vos phalanstères, vos micro-phalanstères, dans des logiques qui seront des logiques personnelles et individuelles. Et je conclurai sur la question de la politique, après l'éthique et l'érotique, la question de la politique, et ce sera une possibilité d'ouverture, si vous le souhaitez. Et vous verrez que, et nous pouvons voir, qu'il y a une dimension politique à l'hédonisme. Dimension éthique, dimension esthétique, dimension érotique, dimension politique. Alors pas de politique politicienne à proprement parler, encore que ça ne l'exclut pas, mais il faut faire un état des lieux qui nous permet de savoir ce qu'est la politique aujourd'hui. Il y a eu des fascismes casqués, armés, bottés, on les a connus, c'est le siècle, le XXe siècle dont je disais tout à l'heure qu'il était le siècle des totalitarismes, et cette époque-là, elle est révolue. Le fascisme identifiable comme tel n'existe plus. Foucault fait une belle analyse de cette situation-là. Deleuze aussi. Et ils nous disent qu'il n'y a plus de fascisme visible et repérable au sommet de l'État, mais il y a des micro-fascismes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, parce qu'il y a du pouvoir partout, à chaque fois que vous avez des relations entre deux êtres, vous êtes dans une micro-logique, dans une micro-politique, et cette micro-politique, elle peut être fasciste. De fait, quand un homme domine son épouse, quand un père domine ses enfants, quand un professeur domine ses élèves, quand un patron domine ses ouvriers, quand quelqu'un en domine un autre, et s'autorise d'un pouvoir et d'une puissance sur autrui, il y a le risque d'un microfascisme, d'une autorité qui déborde sa légitimité. Et la politique aujourd'hui n'est plus l'occasion de dire il faut voter pour tel ou tel, encore que ça peut présenter un intérêt, mais elle suppose, dans une perspective deleuzienne, de dire que s'il y a des microfascismes, il y a des micro-résistances. Et la politique aujourd'hui, elle est dans les micro-résistances. Pas question donc d'attendre une espèce de salut, un jour de révolution qui nous permettrait, après l'appropriation collective des moyens de production ou ce genre de bévue, de dire on va changer la totalité de l'humanité, ça va devenir le paradis demain matin, mais c'est de dire ici, tout de suite et maintenant, si je fabrique des contrats hédonistes en éthique, si je fabrique des contrats hédonistes en érotique, si je fabrique des contrats hédonistes en politique, alors je génère des micro-résistances au micro-fascisme qui génère les sociétés qui nous dégoûtent ou qui nous déplaisent tant. Donc, je vais faire une conclusion qui sera une espèce d'ouverture, puisque vous voyez qu'avec une fermeture sur la question de la politique, on pourrait très bien ouvrir sur des perspectives qui seraient bioéthiques. J'en ai pas parlé, mais on aurait pu. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Féeries anatomiques » sur ce sujet-là, sur l'esthétique, l'art contemporain. J'en ai écrit un autre qui s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs, si, « L'archéologie du présent ». Et tous ces temps-là sont l'occasion de dire que si par facilité j'ai pu parler d'éthique, puis d'érotique, puis de politique, eh bien, il faudrait dire que tous ces domaines-là sont liés et que l'éthique est politique en même temps qu'elle est esthétique et érotique et que c'est l'ensemble de ces choses-là qui permettent aujourd'hui de dire que l'hédonisme est susceptible d'une vision systématique. C'est-à-dire qu'il y a un système hédoniste qui nous permet de dire que partout où nous nous trouvons, dans quelque situation que ce soit, il y a une pensée hédoniste possible, une solution hédoniste possible et surtout une vie hédoniste possible. Eh bien, je vous la souhaite, cette vie hédoniste. Voilà, je vous remercie beaucoup.